Bonjour Sophie.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. La tension est encore montée d'un cran hier soir entre les États-Unis et la Russie. Le Premier ministre russe Medvedev parle d'une guerre commerciale. Après la validation par le président Trump des sanctions votées par le Congrès américain contre la Russie, mais aussi contre la Corée du Nord et l'Iran. L'Iran, donc, qui laisse ce matin éclater sa colère et considère que l'accord nucléaire a été violé, promettant une réaction adaptée, selon les mots du chef de la diplomatie iranienne. Une réaction très vive qui intervient alors que le président Hassan Rouhani entame aujourd'hui le premier jour de son nouveau mandat, avec de nouveaux défis à relever aussi sur le plan de la politique intérieure. Marie-France Abastado.
Hassan Rouhani a été réélu en mai dernier avec 57% des voix. Pour ce faire, il a dû se tourner vers sa gauche et compter sur les réformateurs beaucoup plus qu'il ne l'aurait souhaité au départ. Au cours de son deuxième mandat, il devra donc naviguer entre d'une part les espoirs de changement de la jeunesse iranienne qui souhaite plus d'ouverture et un plus grand respect des droits de l'homme et d'autre part les conservateurs soutenus par le guide spirituel Khamenei. Mais ce ne sera pas tâche facile. Pendant son premier mandat, par exemple, il n'a pas réussi à faire libérer les prisonniers politiques des dirigeants du camp réformateur comme l'ancien premier ministre ou l'ancien président du Parlement. Mais comme l'explique Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, le président Rouhani ne dispose pas de tous les pouvoirs.
Le président Rouhani a promis des avancées sur le plan des droits humains. Certains opposants iraniens très connus sont toujours en résidence surveillée, d'autres, bien sûr, sont en prison sans que la date de leur procès soit connu, mais les conditions d'un procès équitable. Mais le président Rouhani ne peut pas, justement, changer sa donne parce que les dossiers concernant l'opposition iranienne, concernant la justice, concernant la police, sont toujours aux mains des éléments les plus radicaux, ceux qui sont plutôt proches du guide.
La politique extérieure pourrait aussi donner du fil à retordre à Hassan Rouhani. Si le président américain Barack Obama avait contribué à faire lever une partie des sanctions économiques contre l'Iran, le président Trump, lui, vient d'en imposer de nouvelles.
Au Venezuela, une enquête pour fraude ouverte depuis hier après que l'entreprise qui avait récolté les résultats avait annoncé des manipulations lors du scrutin de l'Assemblée constituante dimanche. Plus d'un million de votes auraient été truqués. Le président Nicolas Maduro s'est contenté d'annoncer le report de l'installation de cette Assemblée et promet qu'elle sera organisée dans la paix, dans la tranquillité et avec tout le protocole nécessaire selon ses mots. Les violences dans le pays ont fait plus de 120 morts au cours des 4 derniers mois. En Turquie, on a appris hier soir l'incarcération d'un journaliste français, Lou Bureau, arrêté depuis fin juillet. Il est accusé par Ankara de soutenir des terroristes. En Méditerranée, un bateau d'une ONG allemande qui mène des opérations de sauvetage de migrants a été préventivement placé hier sous séquestre par la police italienne. Selon le code de conduite établi entre la Libye et l'Italie en début de semaine, en consultation aussi avec les ONG, elles sont 8 présentes en Méditerranée et 5 d'entre elles n'ont pas signé ce code de conduite pour le moment. Les responsables des ONG contestent la version finale du texte sur 2 points, Lise Verbeek.
Le premier concerne la présence policière à bord des bateaux des ONG pour enquêter sur le trafic d'êtres humains. Des officiers armés, ce qui est contraire au principe humanitaire de neutralité et qui jette le discrédit sur l'action des ONG, selon Sophie Beau, cofondatrice de l'association SOS Méditerranée.
On travaille en totale transparence et collaboration avec les autorités puisque on débarque les personnes dans les ports qui nous sont indiquées par les autorités italiennes. À l'arrivée, toutes ces personnes sont reçues dans le dispositif d'accueil italien. Donc nous, on ne comprend pas vraiment la plus-value d'avoir des officiers à bord, si ce n'est d'instiller un doute sur notre mission.
Le deuxième point de discorde dans ce code de conduite, c'est l'interdiction de transférer des personnes secourues à bord d'autres navires, des transferts qui permettent de sauver le maximum de vies actuellement pour Sophie Beau.
Ce qui se passe à l'heure actuelle, vu le déficit de moyens engagés sur la zone. Il y a des petites ONG avec des petits bateaux qui apportent les premiers secours, qui vont sécuriser les personnes avec des gilets de sauvetage, parfois des radeaux gonflables, etc., qui ne vont pas pouvoir les prendre à bord de leur navire et les ramener en Italie. Donc depuis 18 mois que l'Aquarius de l'espace Méditerranée est en mer, on travaille beaucoup en partenariat avec ces ONG Et on a pu comme ça secourir des milliers de vies.
Pour SOS Méditerranée, ce code de conduite est une posture de communication politique de la part des autorités italiennes face à une opinion publique de plus en plus divisée sur la question migratoire, ce qui occulte, selon l'ONG, le vrai problème, à savoir le manque de moyens institutionnels pour répondre à la crise humanitaire.
Lise Verbeck, c'est aujourd'hui ou demain qu'on devra en savoir plus sur la panne qui a immobilisé le trafic en direction et au départ de la gare Montparnasse. Une panne technique, a priori sans gravité, mais dont la gestion a été, selon le gouvernement, catastrophique. Quelle que soit la nature exacte de cet incident, il repose sur la question de l'entretien et de l'organisation du travail dans l'entreprise. Une entreprise scindée désormais en plusieurs structures, l'une qui gère les transports, l'autre qui gère les infrastructures. Une gestion cloisonnée qui peut expliquer en partie la pagaille du week-end dernier, selon les syndicats de la SNCF, Anne Lorchouin.
Un câble mal isolé dans l'un des 17 panneaux électriques d'un poste d'aiguillage, ça c'est l'explication technique de la panne de ce week-end. Un accident a priori banal, mais dont les conséquences ont été très mal gérées. C'est aussi ce qu'a critiqué le gouvernement ces derniers jours. La direction l'a reconnu d'ailleurs, elle impute, elle, ce problème, un mauvais ciblage des investissements dans le rail. On donne trop au développement des lignes à grande vitesse, pas assez au réseau déjà existant, a affirmé en substance le patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Et les syndicats de l'entreprise ne sont pas loin d'être d'accord, à ce détail près qu'ils attribuent aussi ce récent cafouillage à la séparation de la SNCF en trois entités, dont l'une gère les trains, SNCF Mobilité, et l'autre les infrastructures, SNCF Réseau. Ces deux entités qui n'ont plus l'habitude de travailler ensemble n'ont pas ou mal communiqué. Bruno Poncet est secrétaire fédéral de Sudrail. Pour lui, une entreprise intégrée fonctionnerait mieux que deux séparées.
Si vous avez une entreprise intégrée, vous avez un souci comme ça. Vous pouvez donner l'information et communiquer après ensuite vis-à-vis de la partie gestionnaire des circulations, donc des trains. Alors aujourd'hui, vous avez deux entreprises distinctes. Il y en a une qui communique vraiment sporadiquement et qui, quand elle communique, et puis l'autre qui se retrouve sans information, mais qui se retrouve avec les usagers en face d'elle qui sont excédés, comme d'habitude. Ceux qui en pâtissent, ce sont les usagers et les cheminots.
La ministre des Transports a souhaité que désormais les moyens alloués à la SNCF aillent en priorité à l'entretien des réseaux. Encore faut-il gérer et organiser correctement ces moyens pour que cela fonctionne. C'est ce que rappellent les syndicats.
Anne Lorchouin, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, se réjouit ce matin des futurs impôts que paiera en France la star du football brésilien Neymar. Pour pouvoir quitter son club de Barcelone pour rejoindre le PSG, il a dû donc payer la somme de 228 millions d'euros. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le contrat. Et puis c'est une première mondiale. Une équipe de chercheurs est parvenue à soigner une maladie cardiaque héréditaire en manipulant le gène porteur directement sur un embryon humain. Une avancée technique qui porte de grands espoirs pour lutter contre les maladies génétiques, mais soulève aussi des questions éthiques majeures, selon l'étude publiée aujourd'hui dans le journal Nature. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse notamment sont tous en vigilance orange, alerte canicule. 13 départements sont concernés dans le sud-est de la France jusqu'à demain. On devrait atteindre 30 degrés à Marseille dès la fin de matinée. Cet après-midi, 40 degrés sont attendus à Nîmes.